quoi tu penses?
Bizarre.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais.
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, le maire de Dissé est avec nous. On va parler d'un projet à but d'emploi, une entreprise à but d'emploi et projet territoire zéro chômeur de longue durée qui coince un petit peu, vous verrez. Ça fait plusieurs mois qu'ils attendent la mise en œuvre. On en parle en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, on commence à parler logement et c'est en compagnie d'Antoine. Antoine Dagonet, directeur de l'ADIL. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler un petit peu de la situation de logement dans la Vienne. Alors peut-être partir d'un constat, il y a plusieurs milliers de personnes dans la Vienne aujourd'hui qui sont en attente d'un logement social.
Alors c'est vrai qu'on recense plus de 6000 demandes de logement social aujourd'hui sur le département. Alors c'est des situations diverses et variées, hein. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes sans logement. On a des personnes qui aujourd'hui souhaitent, enfin, recherchent un premier logement et font une demande de logement social, mais on a aussi des locataires dans le parc social qui souhaitent modifier la typologie de leur logement parce que la famille a évolué ou autre. Voilà. Mais ça représente effectivement plus de 6000 demandes aujourd'hui sur le département.
Est-ce que c'est un chiffre en augmentation ou c'est assez stable ces dernières années?
Alors on est sur un chiffre qui est plutôt en augmentation et puis une durée aussi pour accéder à ce logement-là qui a plutôt tendance de toute façon aujourd'hui à s'allonger de plus en plus.
Et comment on explique justement que ça s'allonge cette durée?
Alors, tout ça,
il y a plein de raisons, j'imagine.
Il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent cette situation. Une situation qui a considérablement évolué de toute façon depuis 2020, hein, suite à la crise Covid, avec première étape qui a été des retards sur des chantiers qui avaient été lancés avant les premiers confinements et qui ont du coup retardé un certain nombre de livraisons.
Et puis l'augmentation du coût des matériaux aussi.
Et suite à cette période-là, voilà, les coûts des matériaux après ont fait que les projets qui avaient déjà été initiés avant ont vu leur budget augmenter de façon significative. On est sur des fois 20-30% de hausse, ce qui fait que les projets n'ont pas pu avoir le jour sur le planning qu'il était prévu. Donc tout ça fait qu'on a une accumulation de retard sur un certain nombre de projets et différents facteurs qui viennent aggraver en fait la situation.
Donc là, on parlait du logement social, mais en fait, la tension, elle est sur tout le parc locatif.
Elle est sur tout le parc locatif, aussi bien sur le parc privé. Et chose aussi nouvelle sur les dernières années, où on avait plutôt les agglomérations de Poitiers et Châtellerault, hein, qui étaient plutôt concernées, nous, sur une tension au niveau du département, même si on était loin des zones littorales ou d'une grosse métropole. Mais on est également aujourd'hui aussi sur des tensions, également sur les zones rurales du département. Donc aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de trouver un logement locatif, quelle que soit la commune du département de la Vienne.
Et vous n'êtes pas optimiste pour 2025, je crois.
2025, ça va être un peu compliqué aussi, hein, puisqu'aujourd'hui, un projet de construction d'un immeuble collectif nouveau, d'un bailleur public ou d'un promoteur immobilier, hein, pour qu'il soit livré aujourd'hui, le projet a dû être vu ou aurait dû être vu déjà en amont il y a 3 ou 4 ans, quoi. Donc les projets qui sont aujourd'hui émergents et qui rentrent dans les nouveaux critères, nouvelles donnes économiques, c'est des logements qui seront livrés dans 4 ou 5 ans. Donc effectivement, pour 2025, on a une faible probabilité d'avoir une augmentation significative d'offres nouvelles, quoi.
Et même pour la suite, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nouvelles mises en œuvre de chantiers.
Alors, en plus, on a de toute façon moins d'investissements de la part de promoteurs privés parce qu'on a des dispositifs fiscaux qui sont arrêtés, hein, et des avantages. On a aussi des investisseurs qui se retournent ou qui se tournent vers d'autres produits financiers puisque aujourd'hui, face à la hausse des matériaux, les coûts d'acquisition sont plus chers, donc la rentabilité peut être un peu moindre que d'autres produits d'investissement. Donc effectivement, ça ne concourt pas de toute façon à augmenter de façon significative l'offre nouvelle.
Et même les propriétaires, les locataires particuliers qui pourraient vouloir devenir propriétaires, ils en étaient capables avant et maintenant, avec la difficulté d'avoir un prêt, c'est plus possible.
Ça, c'est aussi un autre facteur. Aujourd'hui, l'accès au prêt est plus compliqué. Donc, ce qui fait ce que nous, on appelle le parcours résidentiel, donc de passer par souvent un logement social avant de pouvoir devenir locataire parce qu'on a assis sa stabilité financière, on a accédé à un premier emploi, etc. Aujourd'hui, ce parcours résidentiel ne se fait pas. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas non plus de logement qui se libère puisque les gens restent locataires dans le logement où ils sont aujourd'hui.
Et alors, conséquence aussi, c'est la hausse des loyers, forcément, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande.
C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, on a effectivement des logements sur le parc privé qui sont de plus en plus chers.
Et alors, quelles sont aujourd'hui les principales solutions, les principaux défis qu'il va falloir relever dans le département pour un petit peu détendre ce marché ?
Alors, comme je le disais tout à l'heure, un projet d'un immeuble neuf, de toute façon, il faut 3 ou 4 ans de concrétisation du projet avant que le logement soit réellement offert à la location. Donc, un des axes qui permettrait de rendre un certain nombre de logements disponibles plus rapidement, c'est de travailler sur le parc privé, notamment le parc privé vacant, de façon à ce qu'il puisse y avoir des travaux de réhabilitation assez rapides mis en œuvre pour offrir des nouveaux logements à la location.
Et ce parc vacant, il est important quand même sur des villes comme Poitiers
Alors, il est important sur des villes comme Poitiers, mais il est aussi important sur l'ensemble des communes. De toute façon, on a toujours quelques logements vacants qui pourraient répondre à la demande. Aujourd'hui, après, on a aussi des freins d'un certain nombre de propriétaires de ces logements parce que soit les travaux aussi peuvent être relativement coûteux pour les remettre aux normes locatives aujourd'hui, qui sont aussi... Alors à bon escient, mais qui sont aussi de plus en plus strictes, notamment sur tout ce qui est consommation énergétique. Et on a aussi des propriétaires qui ne peuvent pas assumer non plus les dépenses de rénovation aujourd'hui.
Alors ça, c'est un vrai changement aussi depuis le début de l'année. Il y a certaines passoires énergétiques, vous savez, ils sont classés A, B, C, D, E. Et donc, certaines passoires énergétiques ne peuvent plus être mises en location. Ça représente beaucoup de logements sur la Vienne ?
Alors, je n'ai pas le chiffre aujourd'hui, mais on est quand même à plusieurs centaines de logements qui sont concernés, même milliers. Donc, effectivement, la loi d'interdiction de location des passoires énergétiques, elle va dans le bon sens parce que l'objectif, c'est que les locataires, les occupants aient des charges qui soient maîtrisées. Par contre, ça va concourir de toute façon à la tension de l'offre locative puisqu'on a un certain nombre de propriétaires qui ne pourront pas faire les travaux et qui, du coup, vont... Un logement qui aujourd'hui pouvait être occupé pourra devenir vacant dans les prochains mois, puisque faute de pouvoir investir dans les travaux de rénovation.
Donc pour l'instant, les contrats qui sont en cours demeurent, mais toutes les personnes qui vont quitter leur logement, après, ils pourront plus.
Ça rentrera dans le parc vacant.
Voilà. Et alors,
va offrir une nouvelle offre, qui sera après sur la location saisonnière, par exemple, ou la location meublée qui n'est pas soumise encore par cette
règle. Oui, pour l'instant, ça c'est encore possible. Donc plus de locations, effectivement, type Airbnb et autres. À Poitiers, Châtellerault. Quelles sont les solutions ? Comment on peut mobiliser ce parc ? Comment on peut faire les travaux ? Alors, il y a des aides, pourtant.
Il y a des aides, aujourd'hui, qui sont apportées par l'État, dans le cadre de MaPrimeRénov', notamment. Les collectivités aussi, la plupart sur le département de la Vienne, se sont inscrites dans des dispositifs Petite Ville de Demain. Donc, en plus de ces aides nationales, donc, il peut y avoir aussi des aides apportées par des collectivités pour réduire le reste à charge auprès des propriétaires. Ce sont des outils mais qui ne permettent pas non plus de répondre à 100% des solutions, mais ils ont le mérite d'exister.
Et aujourd'hui, quels sont les types de logements introuvables ou qui sont très demandés sur le département ?
Alors, on a à la fois des typologies de logements, donc notamment les petits logements qui sont compliqués aujourd'hui à trouver sur le parc locatif, en particulier pour le public jeune.
Oui, mais par rapport au nombre d'étudiants qu'on a aussi.
mais aussi les grands logements familiaux qui sont... relativement rares et pour lesquels on a aussi des demandes qui peuvent être plus importantes que l'offre. Et puis après, on a des typologies aussi de publics qui sont plus contraints et plus difficiles à accéder au logement. Tout ce qui est famille monoparentale, notamment. Et puis les personnes avec des revenus salariés, mais souvent à temps partiel. Et puis évidemment, la population étudiante.
Et vous, comment, à la DIL, vous parvenez à soutenir toutes ces personnes en recherche de logement ?
Alors, nos missions au niveau de la DIL, elle est là pour accompagner, d'un point de vue juridique, fiscal et financier, l'ensemble des acteurs et des privés qui sont sur le département de la Vienne. Donc, ça peut être aussi bien une personne qui est en recherche de logement, donc on va pouvoir l'informer sur ses droits et devoirs en tant que locataire futur, et puis l'informer sur l'ensemble des règles et l'ensemble des documents qu'il peut exiger de la part d'un bailleur. Mais à l'inverse aussi, on va pouvoir conseiller un bailleur sur les aides financières auxquelles il peut prétendre dans le cadre de sa mise en location ou de sa rénovation, et puis les exigences et les devoirs qu'il a aussi face à un locataire potentiel.
Peut-être un dernier mot, Antoine Dagonat, qu'est-ce que vous demandez au nouveau gouvernement pour faire évoluer cette situation ? Parce que j'imagine que la Vienne n'est pas une exception dans la France.
Quand j'en échange effectivement avec mes collègues, puisqu'on retrouve une agence départementale d'information sur tous les départements de la Vienne, l'attention, elle est sur aujourd'hui quasiment la totalité du territoire national, avec les zones métropoles qui sont encore dans des situations plus dramatiques que la nôtre. Aujourd'hui, les leviers, c'est d'assouplir un maximum de règles de toute façon pour que à la fois la rénovation du parc vacant puisse se faire de façon la plus rapide possible, mais aussi sur les logements qui sont classés F et G. Et puis, c'était des orientations du gouvernement d'assouplir un certain nombre de règles pour que les projets neufs aussi puissent aboutir de façon plus rapide qu'on peut l'avoir aujourd'hui dans certains secteurs.
Un grand merci Antoine Dagonat, donc directeur de la DIL, d'être venu nous parler de la situation du logement qui se tend de plus en plus dans notre département. Merci beaucoup.
Merci.
On continue en musique avec La Rumeur et ce titre Ne sois pas si sombre.
À la fois cerbère et séquestré, je peux aimer, je peux détester. Je peux me barrer, je peux rester, les deux bras dans l'engrenage. Je parle pas le même langage. Ma daronne était femme de ménage. Si je ne suis que de passage, que ce soit mon préféré, que ce soit mon statut pestiféré ou de sale parasite, change de paradigme. Vu ce que ça me coûte d'essayer d'atteindre le paradis. Mais l'échelle est trop courte, les parois ont la police. Douleur sourde propice à la folie. Peur que la vie ne me maudisse. Vieux, dis-moi tout de suite où est-ce que je creuse. Avant de devenir effrayant comme une famille noire et nombreuse.
Ne sois pas si sombre.
Sombre.
J'accuse le coup, l'âge, non, le doute, c'est tout. Les deux vont souvent avec une braise qui tombe et c'est l'incendie. Le terrain est sec. Cette époque peut brûler. Je reste à 37. Sans affect. L'espoir de lendemain qui chante. J'en ai bouffé à toutes les sauces. Tellement infect. Plus le jargon d'une secte. Ok, ce que ça crée en moi, je l'ai là stocké. Dans ce que je n'oublie pas, ni ose me rappeler. J'ai fait le tour de mes spectres, sans me caresser le nombril. Déjà une bonne chose de faite.
Ne sois pas si sombre.
Sombre.
Formidable, plus maghrébin que magicien, je fais des feux dans le dos du diable. Des feux dormants, des feux errants, des feux de bois de chagrin qui réchauffent l'air de mes souterrains. Un rien de lueur dans leur galerie. Il arrive qu'on retrouve un chemin après avoir flingué sa vie. Les tréfonds du cœur sont une chambre noire. À force de toujours buter, à force de chansons fauchées, mes alphabets cachés finiront bien par s'en arracher. Faut bien qu'il y ait un sol sur lequel marcher. Une main pour toucher, des yeux pour se taire. Une pierre pas trop amère pour les aiguiser. Ce qu'il faut d'amour et de foi.
Et pour nous, ce moyen de transport.
Pulsar, c'est bon.
Moi, je dormirai sur le sofa.
Point d'exclamation.
Et on accueille maintenant Michel François, qui est maire de Dissé. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui
avec
pour nous donner un petit peu des nouvelles du projet. On les avait reçues pour ce projet Territoire Zéro Chômeur de longue durée. Et donc l'entreprise à but d'emploi Oxalis, qui devait voir le jour là en ce début d'année. Mais ça coince, racontez-nous.
Oui, le morceau que vous venez de passer, c'est « Ne sois pas trop sombre », je crois. Donc on va essayer de ne pas l'être, mais... Effectivement, on est un peu inquiet et on essaye de remuer les choses parce que cette création d'entreprise, c'est un peu le parcours du combattant. On a commencé il y a très longtemps maintenant. Je passe sur la préfiguration, mais pour vous donner une idée, le dépôt de candidature, il s'est fait le 7 décembre 2023. On est le 10 février 2025 et on attend toujours des signatures, en l'occurrence la signature de la ministre du Travail et la signature du Premier ministre, suite à un arrêté du Conseil d'État qui, a priori, a été délivré. Mais enfin, ces procédures administratives qui sont longues, qui sont insoutenables pour toutes les personnes qui travaillent sur le projet, à commencer par les personnes privées d'emploi qui attendent l'ouverture de cette entreprise à but d'emploi qui devait se faire début janvier, eh bien, tout est bloqué. Suite aux différentes... il y a eu la dissolution, il y a le premier gouvernement, il y a le deuxième gouvernement, mais enfin, il n'y a plus qu'une signature à mettre. A priori, ça doit pouvoir se faire rapidement, et puis ça fait des mois qu'on attend.
Alors peut-être rappeler à nos auditeurs et auditrices ce que c'est cette initiative Territoire zéro chômeur de longue durée, et donc qu'est-ce qui est prévu sur vos communes?
Alors, Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un dispositif qui est totalement innovant et qui est essentiel, qui est complémentaire en fait à d'autres dispositifs pour assurer une forme de plein emploi. Donc ça s'adresse à des personnes qui sont privées d'emploi de très longue durée. On parle de personnes qui sont privées d'emploi depuis un an et demi, deux ans, trois ans, voire des fois plus, pour différentes raisons. Et en fait, c'est une initiative qui regroupe un certain nombre de partenaires, dont des collectivités. Donc c'est pour ça que nos deux collectivités se sont associées, Jaunet Marigny et Dissé, pour créer un territoire zéro chômeur, une entreprise à but d'emploi sur notre territoire, le territoire commun de nos deux entreprises. Et donc c'est une initiative alors qui n'est pas nouvelle sur Grand Poitiers, hein, puisqu'il y a déjà un territoire zéro chômeur qui existe sur la ville de Poitiers, avec une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Papiole, qui a déjà embauché pas mal de personnes. Et nous, c'est notre ambition aussi sur notre territoire. À terme, d'ici à 3 ou 4 ans, on a prévu 80 embauches, mais dès le mois de janvier 2025, normalement, on avait entre 20 et 25 embauches qui devaient se faire pour notre entreprise à but d'emploi qui est déjà créée, hein, qui s'appelle Oxalis. Donc tout est prêt, l'entreprise est créée, les locaux sont disponibles, mais il nous manque cette fameuse signature. C'est pour ça qu'on a écrit au Premier ministre pour le sensibiliser. Il doit l'être d'ailleurs parce qu'il a un territoire zéro chômeur à Pau.
Oui, et donc vous vous êtes associé, donc la présidente de Grand Poitiers et les maires des deux communes, ainsi que le président de l'entreprise Oxalis, pour l'alerter. Donc ça, c'était le 3 février dernier.
Oui.
Où ça en est? Est-ce que vous avez eu déjà un retour?
Alors le courrier est daté du 3, je crois qu'il est parti un petit peu après. Donc je pense que le Premier ministre avait beaucoup de travail à l'Assemblée, ça ne vous aura pas échappé. On n'a pas eu de nouvelles encore, mais j'espère, puisque le budget est voté maintenant. Et finalement, c'est un peu une petite lumière pour nous dans ce long tunnel, puisque les échos qu'on avait, c'était que de toute façon, tant que le budget n'était pas voté, on ne pouvait pas nous donner le feu vert. Donc maintenant, le budget est voté, donc on attend encore, mais j'espère plus longtemps. Et c'est la raison pour laquelle on a sensibilisé par ce courrier qui est, comme vous l'avez dit, co-signé aussi par la présidente de Grand Poitiers. C'est important que cette collectivité continue à soutenir le projet. Et juste, je compléterai aussi pour dire qu'on n'est pas tout seul dans ce cas-là, hein, puisqu'il y a 8 territoires en France, dont nous, qui attendent ces fameuses signatures. Donc voilà, il y a 8 équipes un petit peu partout en France, avec des personnes privées d'emploi, des conseillers municipaux, des encadrants qui attendent, qui sont prêts à faire feu. Et on espère qu'on sera entendu. Et merci en tout cas de nous donner aussi une caisse de résonance pour qu'on le soit.
On espère effectivement, parce que là, la situation, c'est que vous deviez signer les contrats, là, en janvier. Oui. Et les gens, même que ce soit les encadrants ou les personnes privées d'emploi depuis longtemps, sont en attente.
Complètement. Alors, il faut expliquer peut-être aussi aux auditeurs que, ça paraît très kafkaïen, tous ces problèmes administratifs. Bon, derrière tout ça, c'est quand même de l'argent public. Donc, c'est normal qu'il y ait un certain nombre d'étapes à respecter, avec un audit, avec une validation du fonds d'expérimentation, avec une validation du Conseil d'État. Mais toutes ces étapes-là, on les a passées. Donc en fait, on est vraiment là sur
presque un détail.
Oui, complètement. Une signature en bas d'un arrêté et hop, tout démarre. Seulement, cette signature, elle retarde aussi les signatures de convention, puisque une fois qu'on aura cette signature, il faudra qu'on conventionne avec l'État, donc avec la préfecture, avec le conseil départemental qui finance aussi. Donc tant que tout ça n'est pas fait, et que très basiquement, l'argent n'est pas sur les comptes, eh ben, on ne peut pas démarrer.
Et voilà. Alors, que va faire cette entreprise ? Peut-être on va terminer là-dessus, parce que c'est quand même l'espoir. Que va faire Auxalis sur le territoire, en plus d'accompagner toutes ces personnes privées d'emploi ?
Absolument. Il y a plusieurs activités qui ont été définies d'ailleurs avec les personnes privées d'emploi, hein, parce que l'objectif de ces EBE, c'est justement de faire que les personnes qui sont privées d'emploi puissent exercer une activité qui leur correspond à temps choisi. Et donc, ce qui a été déterminé aussi, et très important aussi, que ce ne soit pas concurrentiel. Il ne s'agit pas que ces entreprises viennent faire de la concurrence à des activités qui existent déjà sur le territoire. Donc, tout ça a été étudié. C'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Et ce qui va être proposé, notamment une activité de conciergerie, par exemple, qui est très importante, qui n'existe pas sur notre territoire. Des activités autour de la blanchisserie aussi, qui manquent sur notre territoire. Et puis, des activités aussi autour de, très largement, espace vert, mais voilà. Là, il y a des activités en matière d'espace vert, mais assez peu finalement dans ce qui va être proposé, aussi de la menuiserie. Enfin, voilà, ce qui nécessite d'ailleurs la présence sur deux sites. Il y aura un site sur Genet-Marigny et un site sur Dissé.
Oui, des petits services qui aideront aussi le territoire. C'est pas que pour les personnes concernées.
Absolument. Et en plus, c'est déjà ce qui se fait, par exemple, à Papiole, qui a, elle, par exemple, une recyclerie du jouet. L'objectif, c'est aussi de proposer des prestations à des personnes, des prestations solidaires, hein, donc à des tarifs qui soient accessibles. Donc voilà, ça va toucher toute la population, mais aussi en particulier des personnes qui vont pouvoir peut-être accéder à des services auxquels elles ne peuvent pas accéder aujourd'hui parce que c'est au-dessus de leurs moyens.
Merci beaucoup,
merci
Michel
à vous.
François, monsieur le maire de Dissé, d'être venu nous alerter. On espère que votre appel sera entendu et que cette signature sera enfin apposée sur le document.
On croise les doigts.
On croise merci. Les doigts. Merci beaucoup. Thomas était samedi 1er février devant le bureau de poste devant la mairie pour défendre le bureau de poste de Poitiers Sud, puisque la poste justifie cette fermeture par une baisse de fréquentation de 50%, ce que refute le collectif qui était sur place et qui appelait à manifester.
Ce qui est appelé le grand rassemblement de la dernière chance réunit tout le collectif de défense ce matin-là à 10h30 devant la mairie. Le collectif rassemble le comité de quartier, plusieurs syndicats de travailleurs ainsi que plusieurs élus dont la maire de Poitiers, Léonore Monconduit. Et c'est sur leur prise de parole que s'ouvre le rassemblement.
Aujourd'hui, nous nous rassemblons ici devant la mairie pour exprimer notre profond désaccord face à la fermeture annoncée de ce bureau, actée à ce jour sans respect de l'avis des instances représentatives du personnel. Une fois de plus, c'est le service public postal de proximité qui est menacé au nom de raisons purement économiques, sans tenir compte des véritables besoins des habitants. Merci à toutes et à tous pour votre présence aujourd'hui.
Ce combat pour la sauvegarde du service public postal dure depuis presque un an, car il aura bien fallu 8 longs mois de lutte, 4 manifestations et plus de 8 000 signatures de pétitions. De plus, l'alternative d'un relais postal commerçant pour assurer une partie des services ne convainc pas les principaux concernés.
Léonore Monconduit, maire de Poitiers. Enfin, y a une question de respect vis-à-vis des élus qui justifie que la Poste suspende sa décision. Et puis il y a aussi, dans le fond, une question de service public de proximité dans la période aussi difficile d'un point de vue social, d'un point de vue politique. Il faut au contraire qu'on renforce les services publics plutôt qu'on envoie un signal de recul qui ne peut que nourrir la défiance des citoyens envers les institutions. Surtout, ce que nous demandons, c'est que la présence du service postal ne soit plus envisagée uniquement au regard de critères de rentabilité immédiate. Enfin, je veux dire, un service public, oui, son but n'est pas d'être rentable, c'est de rendre un service, c'est de rendre un service de lien social, un service concret de proximité. Et là, on est sur une logique froide, aveugle et purement comptable qui est absolument délétère, encore une fois.
Dans un premier temps, je suis allé interroger quelques manifestants sur leur ressenti. Leur point commun, c'est leur inquiétude pour le futur.
Pour moi, c'est important que ça reste ouvert parce que ça crée du lien et un commerce qui disparaît, ça peut en amener d'autres. Donc c'est très important à l'heure actuelle avec la fracture numérique d'avoir toujours un bureau de poste ouvert avec des personnels qui vous accueillent.
Je vous dis, on essaye de faire le maximum. Mais malheureusement, on voit qu'il y a un gros problème, il y a un gros souci à Poitiers et aussi dans tous les petits cantons aussi, hein, parce qu'on est en train de fermer aussi hein, de plus en plus. Hein, donc, après, comment, je ne sais pas comment ça va se terminer. Hein, mais ça, le service public, de plus en plus, bah, ça va être vraiment très, très, très inquiétant dans les prochaines années, hein, je pense. Hein, je pense personnellement.
J'ai été présente sur plusieurs rassemblements et parce que moi, je défends mon outil de travail. Moi, je travaille à la Poste. Et je trouve d'ailleurs fort dommage aujourd'hui qu'il n'y ait pas beaucoup de postiers dans un cadre comme celui-là, parce qu'il y a les usagers, il y a les fermetures de bureaux, il y a les fermetures de centres, effectivement, et de la pique de Poitiers, effectivement aussi. Et moi, la Poste, c'est ma boîte, c'est là où je travaille.
Initialement prévu pour fin 2024, puis repoussé au 1er février 2025, certains y voient un espoir, d'autres sont plus sur la retenue.
C'est optimiste, mais moyennement optimiste. Enfin, moi, je suis des Trois Cités, donc on s'était déjà battu pour la Poste des Trois Cités. Ça a marché, on est très très contents. Donc on se dit, si ça a marché là-bas, pourquoi ? Il faut maintenir le cap et maintenir notre position pour que ça marche aussi là-bas. C'est censé être un service public quand même.
Ça, je ne peux pas trop le dire, mais je pense que si on est nombreux et qu'il y ait des élus qui nous soutiennent, je pense que ça peut inverser les tendances, bien que je suis un peu pessimiste là-dessus, mais bon. Il faut du monde, il faut se montrer quand il y a quelque chose qui ne va pas. Si on ne le dit pas, on ne peut pas le savoir.
Depuis un moment, la Poste pose question sur ses moyens d'être rentable avec la concurrence d'Amazon, des services de colis en ligne, etc. Oui. Mais aujourd'hui, on dit beaucoup que la Poste, c'est avant tout le lien social, surtout à Poitiers-Sud. Mais
c'est le lien social, bien sûr, parce que les autres, eux, ils font tout ce qui va être hyper industriel et tout ce que l'on veut dans le genre de distribution de colis et tout ce qui s'ensuit. Mmh. Mais la Poste, effectivement, elle a un lien social avec l'usager, et normalement.
Il faut que ça continue.
Il faut que ça continue.
Merci Thomas pour ce reportage. Et donc, malheureusement, la Poste donc, a fermé la Poste du Sud de Poitiers. Ça y est, la décision est tombée. Donc, ça fait partie de ces 147e bureau de poste fermé sur la Vienne. Le collectif tient à le rappeler et remercie toutes les personnes qui se sont mobilisées pendant ces 8 mois de manifestation. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Il est présenté par Rachel.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui se déroule la lecture focus Paroles d'étudiants de Hélène Vignal. Une collaboration entre le Méta et l'Université de Poitiers pour l'écriture des 3e et 4e recueils des collectes de paroles étudiantes. Le premier volume aborde la question du travail étudiant et le deuxième celle de la parentalité étudiante. Ça se déroule à La Ruche, le bâtiment A2 sur le campus et ça a lieu à 18h30. Maintenant, direction le Dietrich où se tient à 14h la séance du film La Pampa de Antoine Chevrolier. Willy et Jojo sont amis d'enfance et ne se quittent jamais. Pour tuer l'ennui, ils s'entraînent à la Pampa, un terrain de motocross. Un soir, Willy découvre le secret de Jojo. Ça a lieu à 14h. Encore au Dietrich, se tient ce soir à 20h30 Les Trésors de Marlène, un ciné-club. Cette semaine, la projection concerne le film Les yeux sans visage de Georges Franju. La séance sera suivie d'un échange avec Alexandre Moussa, maître de conférences en cinéma et collaborateur de la revue en ligne Critica. Enfin, direction le Bibliocafé où se déroule à 19h Singing Session. Venez pousser la chansonnette a cappella ou en vous accompagnant en acoustique. Venez chanter des chansons surtout en anglais, dans la joie et la bonne humeur.
Merci beaucoup Rachel, on te retrouve dès demain 8h sur Pulsar pour Espace Matin. Et ce soir sur Pulsar à 18h, c'est End the Tab Trips, votre émission féministe en anglais et en français. À 19h, c'est X-Bull qui reçoit Shail Zalewski pour donc sa dernière BD Love Not Dead. À 20h, c'est Punks et à 21h, c'est Scrognonieux. C'était Grégory à la réalisation technique, merci. On se quitte avec la dernière sortie de Culture Dub, ce titre 10 Years Later.
We all make mistakes and we feel the pain, but we are